Cinérama.
Cette nuit, notre piston émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Espèce de sac à foutre!
Je t'aide.
Tu vas rotter du sang!
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer!
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables.
Je suis ton père.
On n'a rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les loulous.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Mais nous sommes sur Énergie aujourd'hui.
Bonjour, c'est Cinérama, avec un petit changement effectivement en hommage à Spring Breakers, film d'Harmony Korine, puisque c'est un extrait de la bande originale. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à
et
tous.
Et merci d'être de retour. Vite fait quand même, le sommaire, assez chargé. À toi Marine.
Oui, alors moi une fois n'est pas coutume, je vous parlerai en bien d'une comédie romantique puisque j'ai été voir 20 ans d'écart. Et peut-être si j'ai un petit peu de temps en fin d'émission, je vous toucherai deux mots de Hansel et Gretel.
Et toi Manu?
Ben, j'évoquerai donc L'Au-delà qui passe demain donc, dans le cadre de l'absurde séance. C'est un film d'horreur de Lucio Fulci. Et puis peut-être un mot sur ce chef-d'œuvre impérissable, Boule et Bill.
Voilà, et donc moi je vous parlerai très rapidement aussi de À la merveille de Terrence Malick. On écoutera Fernando Trueba qui est le réalisateur de L'artiste et son modèle, dernier film avec Jean Rochefort. Et puis eh bien, on va commencer avec Spring Breakers.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Voilà, musique leitmotiv hein, de cette émission, c'est la musique du début de Spring Breakers, déluge visuel de bikini et d'alcool. Alors beaucoup de commentaires ont déjà été faits sur le dernier film d'Harmony Korine, représentant du cinéma indépendant et alternatif américain, un temps scénariste de Larry Clark, notamment pour Kids ou Ken Park. Harmony Korine a plutôt fait dans le film Poético-Social, avant de sortir ce Spring Breakers. Alors il s'agit, comme pour Kids, de la jeunesse américaine, mais si dans Kids, de Larry Clark. Donc les ados étaient à New York dans des appartements à boire et se shooter. Ici, ils sont en Floride pour jouir d'une coupure bien méritée. Alors le principe est assez simple, hein. Tout le monde en maillot de bain, musique à fond, alcool, marijuana et parfois cocaïne le plus longtemps possible. Évidemment, on fait des rencontres, les remords et les scrupules sont enfouis dans les méandres du cerveau. Le délassement, le lâcher-prise est à son paroxysme. Alors le scénario de Spring Breakers tient en quelques mots. Des jeunes filles veulent quitter leur milieu fermé, les obligations et vivre des vacances délirantes qui ne finiraient jamais. Et elle rencontre un grand, tendre Kyra, plein de fric.
Bonjour, ma beauté. Petit réveil, petite salope. Où est la maille?
La maille, la maille, la maille.
Pourquoi faire?
Tu sais pourquoi faire.
Spring break. Ça fait depuis septembre qu'on met l'argent de côté.
Comment on va trouver tout ce qui manque?
J'en sais rien.
On est les seuls plantés là, dans le spring break. Râle cul de pourrir dans les amphis.
C'est l'occasion de voir le monde, c'est tout.
Spring break.
C'est fini la loose.
Spring break, on peut le faire. On fait comme si c'était un jeu vidéo et c'est bon.
On ramasse la thune.
Et on part en spring break.
Il faut beaucoup de talent pour parvenir à faire digérer aux spectateurs un nombre incalculable de plans répétitifs de Spring Breakers se défoulant d'une manière semblable. On voit pendant 1h30 des individus bourrés et drogués, il n'y a aucune subtilité, mais pourtant Harmony Korine parvient à dépasser le seul esthétisme du maillot de bain et de la chair fraîche qui se trémousse. Il y a quelque chose de repoussant, de bête, de brutal dans cet objet visuel et en même temps une fascination pour ce qu'il charrie de simplicité et d'excès. C'est à la fois un regard sur la jeunesse américaine, la culture pop, la société de consommation, mais c'est aussi un objet audiovisuel léché qui colle parfaitement à cette époque. C'est la musique de Skrillex qu'on a écouté, qui va donc de Skrillex à Birdie Nam Nam en passant par Britney Spears, et dans une scène plutôt mémorable. C'est l'image lumineuse, sombre ou colorée, appuyée d'un montage ciselé. C'est aussi le son avec des bruits d'armes à feu qui viennent régulièrement nous mettre en garde. Alors ce qui traverse cette histoire, au-delà des apparences heureuses d'une fête interminable, c'est la part de fantasme d'un temps où la recherche du plaisir serait la seule occupation et les désillusions qui l'accompagnent. Mais rien de moraliste là-dedans, la mise en scène s'emploie à gommer les mauvais réflexes. donc cette musique, bon, qui est seulement la musique du début, Marine. Voilà, ça commence fort hein, d'ailleurs.
Oui.
Ça commence très très fort. Voilà, avec une version clipesque. Et après, on passe à une mise en scène plus, plus proche de ce que fait Harmony Korine.
Oui, moi j'ai été extrêmement agréablement surprise parce que j'avais un petit peu peur de l'aspect très racoleur du film. D'autant plus que bon, les comédiennes qui sont dedans, j'ai absolument aucun respect pour elles. Quoi. Elles sont issues des séries Disney Channel. C'est quand même de très mauvaises comédiennes. Ça représente tout ce que je déteste dans le cinéma américain, plutôt dans la télé américaine. Et en fait, je pense qu'elles sont assez manipulées dans le film, mais il le fait très bien. Et du coup, il arrive vraiment à les mener là où il veut les mener. Et au final, ça marche et ça dit vraiment beaucoup de choses sur la post-adolescence, ce film. Et puis, il y a comme ça tout ce côté absurde qui confine au sublime, quoi. Notamment, tu disais, dans cette scène mémorable avec Britney Spears, où elle danse avec des mitraillettes, devant un soleil couchant. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est à la fois brut et touchant.
Tout à fait. Et avec James Franco qui fait une partition
qui est
vraiment
très bon.
Géniale, voilà, qui est au piano d'ailleurs quand tout le monde chante Britney Spears. Mm. Donc c'est plutôt à voir, même si 1h30, mais qui paraissent 2h, bizarrement. Je trouve que le déluge visuel au bout d'un moment est un peu trop fort.
Mais c'est parce que ça met aussi le spectateur dans un espèce comme ça d'état de transe où on est complètement gavé par toutes ces images, on est en fait à moitié bourré, quoi,
ouais,
par tout ce qu'on voit.
C'est ça. À quand les tilotests à la sortie de Spring Breakers?
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
Alors maintenant, on passe non pas aux jeunes vingtenaires, mais aux vieux quadragénaires. Avec donc 20 ans d'écart, alors vous comprendrez me connaissant, bien que je sois allé voir ce film très à reculons, m'attendant comme d'habitude au traditionnel supplice des comédies romantiques. Pour comprendre à quoi je fais allusion, eh bien, je vous laisse écouter le résumé à travers la bande-annonce.
J'ai 38 ans, un boulot de rêve, une fille formidable, pas de mec. Et pour tout vous dire, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je comprends pas, je croyais que j'étais la seule en qui t'ai confiance pour reprendre le magazine. Enfin merde, qu'est-ce qu'elle a plus que moi?
Si tu me fais pas rêver, comment tu veux faire rêver l'électrice?
T'es en train de me dire que je suis trop vieille?
Elle est moche, ta caisse, petite bite, Zoé.
Mais ça va pas? Vous m'avez laissé un message, vous avez retrouvé ma clé USB, c'est ça? Le principe, c'est que je monte là-dessus.
Vous permettez?
Oh, la pute!
C'est mon Twitter, ça.
Twitter, direct. Vincent, est-ce que tu crois ce genre de choses?
Là, sur la photo, tu me fais rêver. Bah, t'as l'esprit rebelle.
Mother, I'd like to fuck.
Hein? Mother, I'd like to quoi? Tu veux que je me tape un gosse pour le faire plaisir?
Tu vas faire croire que tu te le tapes. Nuance.
Qu'est-ce que vous faites là?
J'avais perdu ton number, en fait, et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément.
Je me souviens, quand j'avais ton âge, j'avais rencontré une calabraise splendide.
Buenanotte.
Et surtout, elle avait deux fois mon âge.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je la prends, je la retourne. Je tiens.
Papa.
Oui. En fait, non, mais c'est...
Je suis désolé pour l'italien, je sais pas ce qui m'a pris, c'est ringard à mort.
19 ans, Balthazar, t'as 19 ans.
Je sais ce que vous devez vous dire. Il est jeune, il a envie de déconner, de se la raconter devant ses potes, mais c'est pas du tout ça, Alice. Vous me plaisez. Vraiment, je veux dire, vraiment, comme c'est jamais arrivé avant.
Oh, dis donc, regarde, ils ont rétréci du jardin.
Et le montage sonore de la bande-annonce est assez horrible, je sais. À ma grande surprise, donc, eh bien, le film est bon. Il n'est pas toujours là où on l'attend. Et pour un peu, j'aurais presque envie de le recommander, la dernière comédie romantique, à m'avoir procuré le même sentiment et étant quand même l'arnaqueur il y a 4 ans. Sa réussite tient en effet à sa faculté de réunir les ingrédients qui plaisent au grand public sans pour autant revêtir l'apparence totale du film commercial. Cette démarche est le fait du réalisateur David Moreau, metteur en scène au parcours des plus atypiques, puisqu'il s'est notamment fait connaître avec le film d'horreur Hill avant de partir aux États-Unis. Lorsque Hollywood importait en masse de jeunes Français pour venir faire chez eux des remakes de films d'horreur. Cette fois, c'est le thème de la MILF dont il traite, avec en casting deux acteurs choisis avec goût. D'un côté, Virginie Efira à contre-emploi, en rédactrice en chef d'un magazine de mode un peu coincé et menacée donc de concurrence par ses collègues plus jeunes qu'elle. Et de l'autre, Pierre Niney de la Comédie Française, comme il est d'usage de préciser, Précisons également d'ailleurs que cette appartenance se sent un petit peu parce qu'on reconnaît quand même une nette différence entre son jeu et celui de Nicolas Duvauchel. D'ailleurs, sa présence et son physique à l'opposé de celui du jeune premier classique apportent vraiment une énorme plus-value au film. Le même film, s'il avait été tourné aux États-Unis, aurait sans doute associé plutôt un jeune et faible, insipide, à une quadragénaire incendiaire. Ici, l'humour ne révolutionne pas le genre, mais la satire du monde de la mode est très réussie malgré les nombreux films qui ont précédemment testé l'exercice. Et si de nombreuses blagues sont assez téléphonées, quelques-unes sont astucieusement placées en fait, de façon à plaire aussi à un public un peu plus cinéphile. Pour prendre mon propre exemple, en fait, j'ai pas du tout ri au cours de la première demi-heure du film alors que toute la salle était pliée en deux. En revanche, ce qui m'a beaucoup fait rire en premier, c'était l'apparition de HPG, à laquelle personne n'a fait attention. Mais voilà, moi, ça
qui
m'a
est
fait,
un acteur porno que...
Un réalisateur, à présent. Et moi, en fait, j'ai trouvé que la référence était extrêmement drôle. Il y a comme ça d'autres références, notamment à un cinéma un peu autorisant comme Louis Garrel, enfin... qui viennent comme ça de façon à ponctuer le film. Et donc, grâce en grande partie à ces comédiens très convaincants, eh bien, même les moments d'émotion deviennent supportables, voire presque, je dis bien presque touchants. Presque. Voilà, donc c'est plutôt à voir, c'est une très bonne surprise.
Et ça passe donc au Gaumont, ouais. Multiplex et comédie.
Cinérama sur Divergence FM.
L'artiste et son modèle de Fernando Trueba. Alors, on espère que ce ne sera pas le dernier film avec Jean Rochefort, mais en tout cas, Jean Rochefort est donc dans ce film. Nous sommes non loin de Céret, donc proche de la frontière espagnole. La France est occupée. Marc Croix, un célèbre sculpteur, vit paisiblement avec sa femme. Cet homme donc vit retiré par dégoût des hommes et de leur folie, et la guerre en témoigne. Alors, il aimerait retrouver une nouvelle inspiration, mais sans succès, jusqu'au jour où sa femme rencontre Mercé, une jeune espagnole échappée d'un camp de réfugiés. Chez cette jeune femme, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et retrouve le goût du travail. Il va alors tenter de réaliser sa dernière œuvre. Film de guerre, film d'époque, tourné en noir et blanc, l'artiste et son modèle est un film patient à la tonalité classique. Nous passons évidemment beaucoup de temps dans l'atelier du sculpteur à tenter de cerner son travail et ses doutes. On est attiré par ce couple, une jeune modèle qui fuit la guerre et un vieil artiste qui cherche un dernier souffle créateur. La guerre est juste en toile de fond. Le seul Allemand qu'on voit est un admirateur du sculpteur. Autant dire qu'il n'y a pas de parti pris, que là n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est l'amour de l'art et le mystère de l'élan créatif. Nous avons rencontré Fernando Trueba, qui était au cinéma Diagonal il y a une quinzaine de jours.
Je voudrais une femme comme un rocher, comme une plante sortie de la terre, comme un arbre, comme la mer, une émanation directe de la nature. J'ai poursuivi ça toute ma vie.
Sans jamais l'atteindre ?
Non, jamais, jamais.
Cette histoire, j'aurais pu la raconter peut-être à une autre époque ou à un autre pays, mais c'était le contexte historique idéal pour moi, quelqu'un qui a vécu les deux guerres. Non, ça, j'ai trouvé ça tellement fort, tellement exagéré, tellement surhumain, non, que comme j'ai voulu transmettre l'idée de quelqu'un qui est dégoûté de la vie, qui est dégoûté de Jean Raymond, qui a perdu toute sa foi, toute l'espérance, qui n'a aucune envie de vivre, aucun respect pour son espèce. Qui attend, qui se laisse mourir lentement, non ? Qui a, évidemment, si tu es un artiste, tu es sensible, tu as perdu l'intérêt pour ton travail, parce que pourquoi faire un tableau, ou une sculpture, ou un film, ou n'importe quoi au milieu de tous ces massacres, non ? Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est en train de mourir, disons, et que tout à coup, la vie entre dans sa vie. C'est-à-dire dans la figure de cette jeune femme. Il y a un souffle de vie, un souffle de vent qui entre là, et il récupère, il reprend l'envie de travailler, l'envie de vivre, et il... Quand il l'attend plus, quand il n'attend plus rien, il a ce moment de plénitude à travers son travail, à travers les rapports avec une personne de notre génération, de notre sexe, de notre culture, de notre langue. Et tout ça, et les rapports entre ce jeune et ce vieux homme, c'est ce qui m'intéressait. Et le contexte historique m'intéressait, mais en deuxième place. C'était surtout, il me servait pour raconter l'histoire et pour raconter le personnage. Je trouvais que c'était l'idéal.
C'est un métier comme un autre. Moi aussi, je l'ai fait autrefois.
Vous ?
Pendant des années, ma mère, elle disait, on te paye pour ne pas bouger, pour ne rien faire.
Alors au milieu de tout ça, il faut que tu trouves ton idée à toi.
Et qu'il y a aussi des hommes qui pensent tout nus.
Évidemment.
Tout nus, avec des femmes toutes nues.
T'as envie de poser toi aussi toute nue, hein?
Qu'est-ce que vous faites ici, bande de petits saligots?
Alors il y a quelque chose qui est frappant, enfin même quand on regarde l'affiche hein, qui est juste derrière vous là, c'est que vous avez tourné votre film en noir et blanc. C'est un pari quand même, enfin, c'est radical, un choix radical.
Non, c'est pas radical, c'est même George Clooney fait des films en blanc et noir. C'est, Michael Haneke, tout le monde, des artistes, Woody Allen, Scorsese, il y a plein de gens qui font des films en blanc et noir. C'est pas, tout le monde me demande, mais je comprends pas pourquoi on fait autant d'attention au blanc et noir. Le blanc et noir du film, je suis très, très content, j'aime beaucoup la photo de Daniel. Mais je trouve... Ouais, c'est vrai que c'est risqué, parce que je peux dire ça, parce qu'il y a des gens qui, même, qui aimaient les projets, les scénarios, mais qui ont décidé de ne pas investir ou coproduire à cause que c'est un blanc et noir, ils savaient la panique. Mais pour moi, c'est pas... J'ai trouvé que c'était normal de faire comme ça. Je n'imaginais jamais ce film d'une autre façon.
Je vais te dire un secret.
Oui.
Il y a deux preuves de l'existence de Dieu. La première, la plus importante, c'est le corps de la femme. La Genèse, tout ça, c'est des foutaises. T'imagines Dieu créant l'homme. Faudrait quand même pas prendre Dieu pour un con. Par contre, il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé les océans. La mer, les fleuves, les rivières. Il a créé les plantes. Il a créé les animaux, les oiseaux, les poissons. Toutes ces merveilles. Le paradis. Alors ensuite, il a eu l'idée de créer un être pour lui. Un être beau, parfait. Avec lequel il partagerait le monde.
Je reviens sur la dimension politique. J'ai l'impression que justement, vous avez voulu écarter ça malgré le contexte du film, malgré les personnages qui arrivent, parce qu'il y a cette jeune femme, effectivement, qui fuit l'Espagne, mais finalement qui devient le modèle. L'artiste est son modèle, voilà, c'est juste une modèle avant d'être une Espagnole exilée. Il y a ce résistant qui intervient, mais voilà, enfin bon... Il ne prend pas vraiment position, le sculpteur. Il est effectivement en relation avec un officier allemand. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a ni bien ni mal. Enfin, qu'il y a vraiment, ça porte bien son nom, l'artiste et son modèle. Enfin, c'est ça qui importe vraiment. Enfin, c'est vraiment l'art qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus du bien et du mal.
Peut-être parce que les personnages de Macky Sarr et les personnages de la modèle, ils sont jeunes et ils croient encore qu'il y a une lutte à faire et qu'il y a des possibilités de changer le monde, de changer la réalité, qu'il faut lutter. Qu'il faut se battre. Par contre, le personnage de Cross, il est arrivé à un moment de sa vie où il a perdu la foi et l'espérance. Il croit que l'espèce humaine c'est foutu, qu'on ne peut rien faire, qu'il est en train de vivre, éprouver ses deuxièmes cauchemars mondiaux. Donc vraiment, il ne croit plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'il sympathise avec les jeunes, et peut-être qu'il est complètement d'accord, mais peut-être, je pense, qu'il vraiment a perdu la foi dans l'espèce humaine. C'est ça qui était important pour moi, commencer comme ça et montrer comme tout à coup la vie va lui gagner, non ? Et qu'il va récupérer l'amour de la vie, du travail, même les désirs, qu'il pensait que c'était une chose... Fini, une chose du passé.
Et alors, Adam ?
J'y viens. Dieu et Ève eurent un fils qu'ils appelèrent Adam. Et il leur interdit une chose. Il interdit à Adam de coucher avec sa mère. Et il les a surpris.
C'était Jean Rochefort, donc, dans L'artiste et son modèle, film de Fernando Trueba, qui sort aujourd'hui au cinéma Diagonale.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Le prochain film, c'est L'absurde séance.
Avec L'au-delà, je dirais enfin, pas enfin c'est à moi, mais enfin je vais pouvoir découvrir L'au-delà, donc sur grand écran, alors que je ne le connaissais qu'en VHS. Le film est bien passé au Cinémède, c'est vrai, le dimanche 23 octobre au Quorum en 2005, mais je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc voilà, l'absurde séance permet donc de réparer cet oubli. L'au-delà est vraiment, à mon sens, un des plus grands films d'horreur en dépit de faiblesses évidentes. Évidemment, l'interprétation est plutôt défaillante et le script part un peu dans toutes les directions. Mais paradoxalement, ses défauts ne font que rehausser les qualités, notamment formelles, de ce film bis devenu culte avec le temps.
Seul celui qui découvrira le grand secret aura la clé pour ouvrir une des sept portes de l'enfer. Et le mal envahira le monde.
Je voudrais juste, pour les néophytes qui nous écoutent, présenter un tout petit peu Lucio Fulci. Né en 1927 et décédé juste avant le tournage de ce qui devait être son dernier film, Le Masque de Cire, ce réalisateur très prolifique aborda une multitude de genres comme bon nombre de ses compatriotes. Bon, comédie, drame historique, des westerns, des giallos, heroic fantasy. Tout y passe en fait avec un bonheur, disons, variable. Celui que Léon, c'est vrai, considéré comme un des cinéastes les plus doués techniquement de sa génération, incarnait donc avec brio une certaine idée du cinéma bis par l'éclectisme de ses sujets, son goût pour la violence paroxystique et son érotisme transgressif. Avec en prime, bon, il y a quelques chefs-d'œuvre, notamment Béatrice Cenci, Le Venin de la Peur, L'Emmurée Vivante et La Longue Nuit de l'Exorcisme. Mais le véritable tournant de sa carrière se situe donc à la fin des années 70, quand il remplace presque par accident un autre réalisateur italien, Castellari, pour réaliser une suite de zombies, le film de Romero. L'Enfer des zombies donc relance la carrière de Fulci, qui va alors s'engouffrer dans un cinéma horrifique, extrême, viscéral et poétique en même temps. L'au-delà est sans doute le nirvana de sa carrière, une œuvre d'une beauté plastique assez sidérante, doublée quand même d'un film d'horreur terrifiant. Le scénario n'est au fond qu'un prétexte pour revisiter l'enfer de Dante, avec toute la folie et la démesure propre au cinéaste transalpin. D'ailleurs, le prologue se situe dans la Nouvelle-Orléans, 1927. Un peintre est châtié pour avoir donné son interprétation de l'enfer à travers ses œuvres picturales. Il est crucifié, défiguré dans le sous-sol d'un hôtel. Et un demi-siècle plus tard, une jeune femme, Lisa, s'installe dans le même hôtel. Des phénomènes donc étranges vont apparaître et la porte de l'enfer va s'ouvrir. Et donc une horde de zombies vont investir.
Évidemment.
Évidemment. Donc Fulci propose une vision anxiogène et putride de l'au-delà, assène son film de séquences vraiment inoubliables. Il multiplie les effets gore comme s'il était un peu lui-même contaminé par un enfer qu'il fascinait. L'au-delà agit comme un poison obsédant, un hymne baroque dédié à la déliquescence des âmes, à la putréfaction des corps en décomposition. Ça, c'est une des figures les plus marquantes du cinéma de Fulci. C'est beaucoup de corps en décomposition, des vers qui sortent des yeux. Enfin bon, bref, c'est pas très ragoûtant, mais il y a un effet poétique qui sort un peu de ce type de cinéma. Alors pour sublimer cette vision un peu de l'enfer, le Fulci est quand même entouré d'une équipe technique très solide, notamment Sergio Stivaletti, le chef opérateur, qui était vraiment un orfèvre dans la composition du cadre et de la lumière, et Gianito De Rossi, qui a confectionné donc les effets spéciaux et maquillage qui sont d'une effrayante beauté. Et enfin, l'au-delà est rythmé par la partition obsédante de Fabio Frizzi, l'un des plus talentueux compositeurs du bis italien. Alors la réussite plastique de cette œuvre, entrée par la mort et la souffrance, rappelle de façon presque littérale en fait la poésie de gens comme Lautréamont ou alors les écrits de Lovecraft. Enfin, c'est un peu dans cet univers-là que baigne le film de Fulci. Donc c'est demain soir à 20h30 à l'absurde séance et il y aura des films de Lucio Fulci à gagner en plus.
En DVD donc.
En ouais. DVD oui.
Voilà, il faudra répondre à des questions, il faut être habillé d'une certaine manière.
Répondre à des questions que je vais trier sur le volet.
Et il faut être habillé comment ?
Bah, en zombie.
Ah là, bah oui.
Voilà. Avec des vers, enfin des vers, voilà, enfin voilà, que tu auras pris dans la terre un peu avant. Bien des sûr. Vers frais.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Après, The Tree of Life, qualifié de pensum métaphysico-religieux soporifique pour certains ou de chef-d'œuvre d'audace pour d'autres, voici à la merveille, une fraîche dans le texte, la merveille étant le Mont Saint-Michel où nous emmène très vite le film. Et dans ce lieu entre terre, ciel et mer, un couple s'y promène, un couple amoureux avec une jeune femme plutôt gaie et un homme plutôt calme et sérieux. Que de belles images en cinémascope qui, comparable à The Tree of Life, capture le grandiose et l'insolite de la nature et va des éléments au sensible, à la chair, à l'humain. La réalisation de ce « À la merveille » est impeccable. La lumière, le cadre, le montage, les rapports de plans, le rythme, tout est limpide. Tout comme The Tree of Life, une voix off nous accompagne et pose des doutes et parle du Seigneur et d'amour. C'est d'autant plus facile pour Terrence Malick que cette fois-ci, nous avons un Javier Bardem qui interprète le rôle d'un prêtre qui est en crise autant qu'il est en contact avec la douleur économique et sociale de ses ouailles. Mais sa présence est fantomatique et notons-le, il y a très peu de dialogue. On pense même à un moment que cela arrange Ben Affleck qui ouvre très peu la bouche et nous gratifie de deux ou trois expressions du visage, souvenir de ses cours de théâtre au lycée. Poème audiovisuel idéalement réalisé, ponctué de voix off et donc habité par une musique répétitive, À la merveille est un bloc de sensibilité. Il n'empêche que le discours finit par être imbuvable, quasi chuchoté derrière un voile visuel captivant. Les doutes du prêtre, la passion et les frictions du couple, tout ça finit par être de trop. C'est pourtant une manière pour Malick, après The Tree of Life, que certains trouvaient céleste, de redescendre encore plus sur la terre ferme et de s'interroger à nouveau sur l'amour, qu'il soit de Dieu ou charnel. Il s'agit presque de s'épuiser à filmer l'invisible. On écoute un petit extrait de la bande-annonce pour entendre cette espèce de chuchotement. Et encore, j'ai relevé le son.
Si je t'inquiétais parce que tu ne voulais pas m'épouser, ça voudrait dire que je t'aime pas. J'attends rien. Juste faire un petit bout de chemin ensemble.
Arrête de faire du sérieux.
Voilà, nous sommes au jardin du Luxembourg dans cet extrait. Et oui, Marine, il s'agit de Olga Kurylenko.
Et donc, c'est la vraie voix.
C'est en français dans le texte, hein, avec un son, justement, prise directe à la française. Voilà, ce qui est assez rare pour le cinéma américain. Donc, À la merveille est encore projeté au cinéma Diagonal. Et on va terminer avec Boule et Bill. Oui. Sans transition, on dit généralement.
Boule et Bill, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Si vous avez des enfants insupportables, si la dictature des nains vous épuise, emmenez-les voir Boule et Bill. Pour eux, c'est vraiment une véritable punition. Pour nous, ça devient presque un plaisir coupable si on veut faire souffrir un enfant. J'ai emmené les miens depuis, il ne m'adresse plus à parole. Non, je plaisante, mais il faisait une de ses tronches en sortant, c'était terrifiant.
Mmh. Ah oui, donc ça plaît même pas aux petits, en fait.
C'est vraiment, je ne sais pas, ils sont un peu grands, les miens.
Pour aucun public.
Mais ce n'est pas drôle du tout. Mais alors, pas du tout. C'est mou, c'est daté. Et déjà que la BD n'était pas géniale.
C'est vrai qu'elle n'était déjà pas du tout drôle à la base, la BD.
Et Franck Dubosc est totalement transparent. Ce qui est peut-être pas mal, dans un sens.
Oui, non, oui, il me semblait.
Marina Foïs.
Transparente aussi.
Okay. Tout le monde. Il n'y a que le
en
chien.
En fait, c'est Ghost, non. Quoi.
Le chien, la seule bonne idée, c'est que le chien n'est pas en image de synthèse. Hein. C'est qu'ils ont pris un vrai chien. Et ça, c'est plutôt mieux que Scooby-Doo, par exemple.
Ouais. Effectivement.
Mais à part ça, il y a une jolie tortue aussi, Caroline.
Oui, il paraît que c'est les meilleures séquences entre la tortue et le chien.
Voilà. C'est dire le niveau du
oui,
film.
Oui, effectivement. Et Hansel et Gretel rapidement aussi, mais très rapidement, en deux mots.
C'est une catastrophe. Bah, disons qu'au rayon conte de fées réadapté à la sauce hollywoodienne, on avait le Chaperon Rouge qui était nul ici, mais on avait inversement Blanche-Neige et le Chasseur qui était super réussi. Là, c'est plutôt dans la première catégorie, malheureusement. C'est-à-dire qu'en dehors des scènes d'action qui sont particulièrement gore, il y a des organes qui giclent dans tous les sens.
C'est un cinéaste de film gore qui a fait
d'accord,
ça.
D'accord, ok, bah, je comprends mieux.
Non, je crois.
D'accord, parce que j'étais un petit peu perdue. Je me disais, oula, c'est un petit peu surprenant quand même, visuellement parlant. Mais alors, à part ça, les dialogues sont rachitiques. On s'ennuie totalement, ce qui est quand même assez incroyable pour un film qui est supposé envoyer un petit peu. Et enfin, il y a plein d'incohérences et de choses complètement ridicules, du style Hansel est devenu diabétique parce que la sorcière lui a donné trop de bonbons quand il était petit. Mais tout ça se passe au Moyen-Âge. Voilà, Greta, elle est habillée comme Trinity dans Matrix. Il tue les sorcières avec des tasers moyenâgeux. Et la grande sorcière est une espèce de d'égérie L'Oréal.
Parce qu'elle le vaut bien.
Parfaitement ridicule et ennuyeux.
C'est un film à gros moyens ? Parce que c'est quand même très curieux qu'on ait filé autant d'argent à un cinéaste qui vient du Z.
Il bah, y a quand même Jeremy Renner dans le premier rôle, qui est celui qui reprend le rôle de Bourne actuellement. Donc c'est quelqu'un, c'est un comédien qui est assez bankable.
Mmh. Je pense qu'il me semble avoir vu beaucoup de copies, donc ça veut dire qu'il y a eu les moyens.
Et c'est en 3D aussi. Donc oui, si quand même ils ont tablé, je pense, sur une grosse sortie. N'allez pas le voir.
Et puis, allez voir plutôt Jude Apatow, le dernier Jude Apatow, 40 ans,
c'est mode d'emploi. 40 ans en cloque.
On en parlera la semaine prochaine, puisqu'on est à la bourre.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Et on termine donc avec l'agenda pour vous parler de demain 14, l'aventure de Madame Weir de Joseph Mankiewicz. Ce sera au Ciné-Club Jean Vigo. Les gamins avec Max Boublil et Anthony Marciano, c'est au Gaumont Multiplex, c'est à 20h30. Ils seront présents en fait, ces deux-là, et nous les interviewerons. Le jeudi 14, c'est aussi la pure séance dont on a parlé à l'Utopia, donc avec le film Au-delà. Ensuite, au Diagonale, le vendredi 15 à 18h, c'est le festival hybride qui va commencer avec une avant-première. Ça s'appelle Alps de Yorgos Lanthimos, laissez-vous tenter. Et ensuite, une chanson pour ma mère, c'est au Gaumont Multiplex, c'est à 20h. Film avec Patrick Timsit, qui sera aussi présent. Voilà, il y a deux avant-premières au Gaumont cette semaine. Le Ciné C'est Toi propose Django de Sergio Corbucci, donc au cinéma Comédia, c'est à 20h ce vendredi. Ensuite, dimanche 17 mars à 10h30, Le Bonheur, Terre Promise de Laurent Haas, c'est au Diagonale, c'est avec Laurent Haas, le réalisateur, et ensuite il y aura un buffet partagé un peu plus loin du côté de au centre Lacordaire sur l'Esplanade. Le lundi 18 mars à 14h, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick à voir au cinéma. Donc c'est au Diagonale. Et puis encore lundi, mais cette fois-ci du côté de Frontignan, c'est une bonne nouvelle, c'est la projection d'Holly Motors avec Denis Lavant qui sera présent. Et oui, donc je ne sais pas si je ferai le déplacement, mais pourquoi pas.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, vous retrouverez à nouveau des chroniques et puis des interviews, notamment autour du film documentaire La saga des Conti.
Et juste après, à suivre l'émission 24 notes secondes qui sera consacrée cette semaine, non pas à Skrillex, mais aux musiques des films avec Marlon Brando. Ah. À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.